nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Charles Fourier est la figure la plus connue du socialisme utopique. Ce qu'il veut, c'est une révolution sans terreur et une vie sans misère. Comme l'explique Nathalie Brément, sa théorie part d'une critique féroce de la société de son époque, marquée par la révolution industrielle naissante qu'il nomme la civilisation. Il y oppose un projet social qui s'appuie sur une nouvelle organisation des relations individuelles basée sur l'exaltation des passions humaines. Fourier imagina les phalanstères, lieu de vie d'une collectivité guidée par l'attraction passionnée et sur le modèle de la musique. Un peu comme si nous décidions tout à coup de nous traiter les uns les autres comme des sonates. Son système est extrêmement élaboré et nombre de ses idées pourraient bien nous servir aujourd'hui. Parce que Charles Fourier était né à Besançon en avril 1772 et qu'il mourut à Paris en octobre 1837, Jean Montalbetti avait eu en 1980 la belle idée dans son émission « Un homme, une ville » de parcourir chacune des villes en trois émissions. Cela donna une belle émission que nous allons entendre tout de suite sur Charles Fourier à Besançon, puis deux autres sur Charles Fourier à Paris que vous pourrez écouter demain.
Un homme, une ville. Charles Fourier à Besançon avec Dominique de Santy. Un provincial d'Ancien Régime en révolte contre son milieu. Par Jean Montalbetti. Réalisation André Mathieu et Daniel Fontana Rosa. Classe êtes-vous ?
En seconde A.
En seconde A et vous ?
Moi aussi, à 4.
Est-ce que vous savez que Charles Fourier a été élève dans ce lycée ?
Oui, je savais.
Vous savez qui c'est ?
Non, je le connais pas.
On n'est pas Besançon. On est interne ici. Alors, on ne s'intéresse pas beaucoup, hein, c'est pas notre pays.
On connaît surtout Victor Hugo à Besançon. Hein.
Fourier, pourtant, il y a tellement. Très peu vécu.
Ouais.
Moins que Fourier.
Oh oui, mais enfin, c'est surtout Victor Hugo qu'on connaît.
Fourier, vous savez qui était Fourier ?
Ouais, un socialiste utopique. Je crois qu'il y a une exposition également au musée, je crois.
Vous avez été voir le musée d'histoire ?
Non, non. Non, mais enfin, j'en ai entendu parler.
Il y a eu des articles dans la presse locale sur cette exposition, sur cette salle des socialistes franc-comtois ?
Oui, je crois, oui. Oui, oui. Mais enfin, je m'intéresse un peu aux socialistes utopiques. Enfin, je suis en droit en plus, donc j'en entends un peu parler, quoi.
Besançon est un modèle de ville moyenne qui compte aujourd'hui plus de 125 000 habitants et dont le site exceptionnel, en bordure du Jura, en fait à la fois le chef-lieu de la région Franche-Comté et du département du Doubs. Une ville qui s'étend par son activité industrielle mais qui a conservé son cœur ancien, siège traditionnel d'un secteur tertiaire très actif. C'est justement d'une famille du milieu commerçant de Besançon qu'est issu Charles Fourier, cadet de 3 ans seulement de Napoléon Bonaparte. Il appartient donc à la génération de la Révolution française. Bisontin, comme Charles Nodier et comme Joseph Proudhon, ce provincial restera fier de l'être, adversaire inlassable de la centralisation abusive et de l'importance de Paris. Ce fils de drapier, lui-même toute sa vie employé de commerce, ne cessera de maudire le négoce. Cet enfant, à l'éducation catholique, élevé dans la terreur du péché et de l'enfer, proposera au XIXe siècle la révolution morale la plus audacieuse et codifiera les bases d'une nouvelle religion. Fourier, qui se proclame autodidacte, voudra ajouter à sa réputation de génial inventeur de systèmes l'été de données mathématiques et scientifiques. Précurseur, il est, comme Saint-Simon, l'initiateur d'un socialisme utopique oblitéré au cours du 19e et également du 20e siècle par le socialisme scientifique de Marx, mais redécouvert au cours des années 1960. Avec Dominique de Santi, historienne du socialisme et du féminisme, nous vous proposons d'aller à la rencontre de Charles Fourier et à la découverte de sa société d'harmonie. Il fallait pour cela s'interroger sur ses racines provinciales. C'est ce que nous avons fait en nous rendant à Besançon, où nous avions rendez-vous au Palais Granvelle avec Joël Pontefract, conservateur adjoint du musée d'histoire.
Voilà la maison natale de Fourier, une maison avec un beau toit en pente.
C'est une très jolie gravure.
Ah, c'est une ravissante gravure. Auguste Brie, 134 du Bac, est-ce à Paris, je ne sais pas. Librairie phalanstérienne, rue de Beaune, et quai Voltaire. C'est donc à Paris qu'a été faite cette gravure, mais certainement d'après un dessin. Et là, on voit exactement ce qui est décrit dans l'almanach phalanstérien de 48, une jolie demeure du XVIe siècle, percée au rez-de-chaussée d'une grande baie, éclairée au premier étage de deux fenêtres à baies géminées, plus une demi-fenêtre isolée surmontée d'arcs en accolade. Le rez-de-chaussée était entièrement occupé par les magasins et les bureaux du père de Fourier. La famille habitait le premier étage. Et cette demi-fenêtre isolée, du côté opposé à la ruelle Baron, éclairait la chambrette du jeune Charles. Il était né dans une petite pièce tout à fait semblable et contiguë, la chambre de sa mère située en arrière sur la cour. Alors, on voit cette demi-fenêtre en ogive. La rue semble assez large. Toutes les maisons sont anciennes et belles. Et c'est très curieux de penser que c'était en plein milieu commerçant, parce qu'évidemment, ça n'a plus rien à voir avec le quartier commerçant d'aujourd'hui.
Non, d'ailleurs, on a peu l'impression d'une ville, mais davantage presque d'un village.
Oui.
Ces maisons sont des maisons à un étage. Quelquefois, il y a un deuxième étage qui est mansardé.
Oui. Et,
on a une impression de pauvreté aussi en regardant cette
gravure.
Oui,
ce qui est une impression tout à fait fausse, car il y a au-dessus de la porte en arc et à petits carreaux Fourier, maître drapier. Et on sent que tout se passe à l'intérieur. Mais évidemment, c'était la mode du temps. Rien ne se passe à l'extérieur. Il n'y a pas de devanture, il n'y a pas de vitrine, il n'y a pas de pub. Rien n'annonce. Et alors c'est très curieux parce qu'en venant ici, nous sommes déjà un peu passés devant des commerces. Et alors ils sont comme partout ailleurs en France, évidemment, il y a
tout en vitrine et en néon.
Vitrine, néon et formica. Les comptoirs sont en formica, l'éclairage est violent, les tissus sont drapés ou présentés de la manière la plus incitante. Et alors là, c'est l'austérité totale. Et vous savez que l'horreur du commerce du jeune Fourier vient de ce qu'à table, il avait entendu dire depuis sa plus tendre enfance qu'on pouvait, quand on ônait le tissu, retenir un pouce ou deux, et qu'à la fin de la pièce, ça faisait un avantage. Et ce mensonge, qui est probablement le premier mensonge dont l'enfant ait pris conscience, lui a donné l'horreur de tout ce qui était commerce. Le pauvre, lui, qui était condamné à faire du commerce pendant toute sa vie active.
Fourier a souffert de l'atmosphère de Besançon, assez pesante, assez bourgeoise, conventionnelle, un peu mesquine aussi. Est-ce que c'est toujours l'atmosphère de la ville aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a la même hiérarchie sociale, cette même pesanteur sociale ?
C'est difficile de répondre. Disons que je vais répondre par un biais au travers du problème de l'urbanisme, par exemple, puisque encore de nos jours, nous sentons la structure, l'histoire de la ville très profondément marquée. Il y a toujours la partie haute de la boucle, puisque Besançon est installée dans cette fameuse boucle, la partie haute de la boucle qui est un quartier très calme, disons l'ancien quartier religieux aristocratique, un quartier résidentiel. Il y a la partie basse de la ville, la partie affairiste, la partie où actuellement se traite le plus gros du commerce, et ce qui est hors de la boucle, le quartier battant, qui lui est un quartier plus populaire. Et cette structure a toujours existé depuis le haut Moyen-Âge, et elle existe encore.
Et c'est dans la partie commerçante, bien entendu, que se trouvait la maison natale de Fourier, le magasin de son père.
Au cœur même de la partie commerçante.
Dévoiler les intrigues de la bourse et des courtiers, c'est entreprendre un des travaux d'Hercule. Je doute que le demi-dieu, en nettoyant les écuries d'Augias, ait ressenti autant de dégoût que j'en éprouve à fouiller ce cloaque d'immondices morales qu'on appelle tripot de bourse et de courtage, sujet que la science n'a même pas effleuré. Il faut pour le traiter un praticien blanchi sous le harnais et élevé comme moi dès l'âge de 6 ans dans les bergeries mercantiles. J'ai remarqué, dès cet âge, le contraste qui règne entre le commerce et la vérité. On m'enseignait au catéchisme et à l'école qu'il ne fallait jamais mentir. Puis on me conduisait au magasin pour m'y façonner de bonne heure au noble métier du mensonge ou art de la vente. Choqué des tricheries et impostures que je voyais, j'allais tirer à part les marchands qui en étaient dupes et les leur révéler. L'un d'eux, dans sa plainte, eut la maladresse de me déceler, ce qui me valut une ample fessée. Mes parents, voyant que j'avais du goût pour la vérité, s'écrièrent d'un ton de réprobation « Cet enfant ne vaudra jamais rien pour le commerce ». En effet, je conçus pour lui une aversion secrète et je fis à 7 ans le serment que fit Hannibal à 9 ans contre Rome. Je jurai une haine éternelle au commerce. Charles Fourier.
À l'angle de la Grande Rue, qui est bien sûr la rue principale de Besançon, et de la rue Moncey, il y a une grande maison qui ne ressemble en rien à la gravure que nous avons vue au musée d'histoire, au palais Granvelle, mais sur laquelle il y a une plaque de marbre. Ici est né Charles Fourier, le phalanstérien, 1772-1837, hommage de l'Université populaire. Ce sont des fenêtres 19e, avec... C'est une maison de 4 niveaux, dont les étages vont, point de vue hauteur, dans un ordre décroissant. Il y a un magasin, un joaillier, qui occupe tout le rez-de-chaussée.
Oui, alors ça, c'est une ironie extraordinaire. Donc, la draperie Fourier est remplacée par un marchand de pierres précieuses. Et vous savez que Fourier avait toujours un rapport très ambigu aux pierres précieuses, parce que... En principe, en harmonie, ça ne devait plus être précieux, mais en attendant l'harmonie, il a recommandé un beau jour aux fourriéristes de collectionner l'argent, l'or et les pierres précieuses. Alors c'est assez curieux que ce soit un joaillier qui soit en bas de sa maison. Et puis enfin, tout le quartier est un quartier commercial moderne.
Cette maison a été évidemment refaite, car comme on l'a vu sur la gravure, oui. Il y avait simplement un premier étage et ensuite un deuxième étage mansardé.
Oui,
sur les toits.
Puis,
tandis que là, nous avons une maison sur 4 niveaux.
C'était des 3 fenêtres en ogive. Ici, ce sont des fenêtres rectangulaires ornées d'assez jolis fers forgés en balcon. Ça n'a plus rien à voir. Il n'y a guère que les fondements qui doivent être les mêmes, probablement. Et c'est touchant que la plaque ait été posée par l'Université populaire et non pas par la municipalité ou par des admirateurs de Fourier. Il aurait été heureux de ça. Mais cette maison, de toute manière, pour lui, c'était un lieu qu'il désirait fuir aussitôt qu'il a eu l'âge de comprendre, comme il désirait fuir la famille. Et alors dans une autre maison qui n'est
plus... Oui, alors c'est donc là qu'il est né,
natale.
Le 7 avril 1772. Et lorsque son père est mort en 1781,
ils ont déménagé.
S'est transporté dans la maison Martineau.
Voilà. Et alors dans la maison Martineau, il y a quand même quelque chose d'assez drôle. C'est que Fourier, enfant, il avait 9 ans, 10 ans, transportait de la terre, probablement la nuit, puisque personne ne l'a vu transporter cette terre. Il en recouvrait le plancher de sa chambre, il y plantait des tulipes et d'autres fleurs,
oui.
Des tubéreuses, et il ménageait des petites allées. Et quand on s'en est aperçu, il est probable
qu'on a fait un véritable jardin.
Poussé les hauts cris, oui. Alors je ne sais pas, le récit de sa sœur ne dit pas s'il a été félicité ou blâmé, mais dit seulement que le plancher en dessous était complètement pourri, qu'il a fallu le remplacer. Donc probablement le pauvre Fourier a échoué à faire admirer la beauté de son jardin.
par rapport à la maison d'angle qui a été donc reconstruite au cours du 19e siècle, nous entrons là ici au 87, qui est une maison qui semble beaucoup plus correspondre à la description qu'en donnait l'almanach de 1848, et à la gravure que nous venons de voir au musée d'histoire, avec notamment cet ensemble de fenêtres géminées. Et à côté, au contraire, une sorte de demi-fenêtre.
Demi-fenêtre isolée.
Ce sont des fenêtres en hauteur et qui sont surmontées d'une sorte de, d'accent circonflexe, un petit peu.
Oui, d'ogive, presque un peu mauresque.
Et il y a sur la façade une petite statue de saint également. Et on a surtout une maison qui est sur une seule hauteur, un seul étage, comme l'était la maison de Fourier. Alors, ou bien il y a eu erreur.
Écoutez, Montalbetti, après tout, peut-être que l'université populaire, on ne peut rien lui enlever, s'est trompée, a décalé sa plaque d'un numéro. Ou alors était-ce deux maisons jumelles? C'est possible aussi, naturellement. Mais en tout cas, ici, nous avons vraiment l'idée de ce que pouvait être la maison natale de Fourier, et par l'architecture, et par l'atmosphère, la statue de saint, certainement, et puis encore dans le couloir, il y a une espèce de cadre en bois, avec une statue de Vierge, mais ça doit être très postérieur, j'imagine.
Et alors,
tandis
nous sommes rentrés dans la petite cour.
L'escalier extérieur, lui, doit être d'époque. Oui. Et le balcon,
de l'arrière. Il y a une rampe métallique ouvragée ici, au premier étage, qui conduit à une sorte de véranda.
Oui, une véranda surmontée d'une verrière. Et on voit très bien la famille Fourier bénéficier d'une véranda comme ça. C'est tout à fait dans les mœurs du temps.
Alors la chambre de Fourier avait une demi-fenêtre sur la rue. Et par contre, la chambre de sa mère, qui était contiguë, c'est-à-dire certainement du côté court, c'est là qu'il est né.
Alors c'est peut-être là. En tout cas, l'atmosphère est si semblable que c'en est troublant. Et il y a encore une chose à dire, c'est que la gravure que nous avons vue au musée avait un air très misérabiliste. On aurait dit une rue de village assez pauvre, alors que, visiblement, d'après la date des hôtels très beaux, qu'il y a grand rue, c'était déjà une rue d'opulence et de bourgeoisie. Une rue de prise de pouvoir par la bourgeoisie, même avant la Révolution. Et nous savons que la prise de pouvoir économique était bien antérieure. Et c'est tout à fait l'impression que ça donne.
Le bourgeois et le marchand marchent à la Bastille, marchent à la Bastille, et partout là de brille. Vint à fermer triomphant, clélan, clan, 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 tire l'irvent, plan. Le bourgeois et le marchand marchent à la Bastille. Les citoyens de Tourban, clélan, clan, 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 tire l'irvent, plan. Suivent les drapeaux flottants, ils ont un air intrépide.
Nous venons de traverser la place de la Révolution.
Et alors c'est curieux qu'elle s'appelle Place de la Révolution quand on va parler de Fourier, parce que certainement elle s'appelait déjà ainsi tout de suite après la Révolution, et lui l'a donc connue sous ce nom.
Le bâtiment de la mairie d'ailleurs est un bâtiment d'époque Révolution ou d'époque du consulat.
Oui, avec un fronton, et c'est très, très marqué. Je dirais aussi que cette belle cour en fer à cheval, ma foi, ça servirait très bien pour un phalanstère, et doit être tout à fait d'époque, tandis que le palais de justice où nous allons pénétrer maintenant et qui est Renaissance semble, d'après la date de la grille, avoir été reconstruit en 1861.
En tout cas, il y a une imbrication entre la partie hôtel de ville et la partie palais de justice, hein, puisqu'on a même une aile du bâtiment de l'hôtel de ville qui est le conseil des prud'hommes.
D'ailleurs, la ville est encore tout entière, pleine de traces de ce qu'a vu Fourier. Par exemple, de très jolies tuiles alternées, noires et rouges, sur les toits, et puis ces toits eux-mêmes, tout ça est très d'époque, comme on dit. On se sent replongé dans l'atmosphère de son enfance, et finalement de toute sa vie, puisqu'il n'a cessé de revenir à Besançon constamment.
Rentrons, si vous voulez, dans le hall du palais de justice.
Oui, qui est anachronique pour nous, puisqu'il est évidemment postérieur, avec des peintures très fin 19e.
C'est une construction typique de Napoléon III.
Oui, escalier à double révolution. Malgré l'heure matinale, c'est déjà très animé. Il y a des avocats en robe et rabat. Et le pauvre Fourier a eu fort affaire à la justice de sa ville à cause du testament de son père et de la mésentente entre Pion, le beau-frère, et sa mère, qui finalement a été spoliée dans l'affaire.
En 1781, lorsque le père de Fourier meurt, Fourier est très jeune, il a seulement 8 ans. Et le testament qu'il laisse, de manière peut-être un petit peu diabolique, est extraordinairement compliqué, et en tout cas, il a prévu quel était l'avenir de son fils unique.
Oui, il connaissait le tempérament de ce fils unique. Il le savait à la fois physiquement faible et moralement ce que nous appellerions aujourd'hui contestataire, puisque Fourier n'aimait ni les études au collège, ni les conversations de la table familiale, ni surtout, il n'en faisait pas mystère, le commerce, l'occupation de ses parents. Et alors le père a voulu le contraindre au commerce, ce qui fait que cette part privilégiée qu'il laissait à son fils unique, le fils ne pourrait commencer à en toucher l'usufruit qu'à l'âge de 20 ans, s'il était déjà dans le commerce.
Pour le premier tiers.
Pour le premier tiers. Ensuite, il en aurait un deuxième tiers à l'âge de 25 ans, à condition d'être toujours dans le commerce et marié. Et enfin, il aurait le reste à l'âge de 30 ans, à condition de persister et dans le mariage et dans le commerce. Or, nous savons...
Alors, il a rempli la première condition, c'est-à-dire que dès l'âge de 20 ans, il était dans le commerce. Oui. Il a donc touché la première part, mais cette première part... Il l'a touché en assignat.
Oui, mais alors c'était ne rien toucher, car notre époque est inflationniste, mais celle des assignats, c'était la super inflation, c'est-à-dire que l'assignat perdait de la valeur d'heure en heure, de minute en minute. Par conséquent, l'héritage était déjà très réduit.
En fait, il a été également un peu spolié, sa mère aussi qui avait l'usufruit de cette fortune par le beau-frère Antoine Pion. Il avait racheté le fonds en 1784, c'est-à-dire 3 ans après la mort du père de Fourier, pour 204 000 francs. Et il les avait rachetés en assignat.
Oui, mais 204 000 francs en assignat, un an après, c'était même pas le tiers. Par conséquent, la mère a été la première spoliée. Et c'est donc dans le palais de justice que celui-ci remplace, que se sont passées toutes ces instances et que sont morts peu à peu les espoirs de cette famille.
L'argument des enfants, c'était que la mère n'avait pas le droit de vendre à Pion ce fonds dans la mesure où elle n'était que l'usufruitière.
Que l'usufruit.
Est-ce que cette mauvaise expérience de la justice a... une influence sur son jugement et son appréciation de la justice.
Indubitablement, de même que la mauvaise expérience du commerce a eu une influence sur sa vue générale de la société, il considérait que la justice en civilisation, comme il disait, fonctionnait extrêmement mal et au détriment précisément de la veuve et de l'orphelin, et qu'il fallait une justice toute différente, rendue par des pairs, c'est-à-dire des gens qui soient tout à fait au courant, et non pas dans l'agression d'un procès, mais dans les explications et finalement la sagesse de ceux qui pouvaient mettre d'accord les parties. Voilà comment il voyait ça dans l'harmonie future.
Vous êtes élève au lycée Pasteur ?
Oui.
En quelle classe ?
Quatrième, 5.
Vous êtes de Besançon ?
Oui.
Nous sommes dans la rue du lycée. Ici, il y a deux établissements scolaires, le lycée Pasteur et le lycée Victor Hugo. Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi ils portent ces noms-là ?
Bah oui, parce que Victor est né ici. Victor Hugo est né à Besançon.
C'est les deux noms des poètes, quoi, là. Des écrivains.
Est-ce que vous savez que Charles Fourier a été élève au lycée Victor Hugo ici ?
Ah non.
Avant qu'il s'appelle lycée Victor Hugo, c'était le collège des Jésuites.
Non, je savais pas.
Vous savez qui est Charles Fourier?
Non, ça doit être un écrivain, non? Je sais pas, je dis ça au pif.
Nous avons une galerie couverte et une cour d'honneur sous arcade.
C'est très 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 joli.
Avec des bâtiments du XVIIe siècle qui sont donc les bâtiments de l'époque des jésuites. Une très belle horloge avec trois cloches qui surmontent l'horloge et qui permettent certainement de rythmer la journée scolaire. C'est un très bel édifice qui probablement était exactement dans cet état, à l'époque.
Il n'y a sûrement rien eu de changé, ni même dans ce quartier, qui est un quartier absolument admirable. Et alors là, avant d'en venir à Fourier collégien, je voudrais faire remarquer les contradictions de cet homme qui a été élevé dans une des plus jolies villes de France. Une ville où il n'y a pas de rue, où il n'y ait de portail, d'hôtel, de bâtiment digne d'attention, qui est d'ailleurs resté encore, quant à la boucle du Doubs, égale à elle-même, pas détruite. Et cet homme prétendait haïr les villes. Je vous ferai remarquer que toute sa vie, il a vécu dans des villes. Il a vécu entre Besançon, Lyon, Marseille et Paris. Mais les phalanstères, ça devait être des assemblées soit de 1620, soit de 1800 personnes à la campagne, et les manufactures devaient être également à la campagne. C'est assez curieux. Et autre curiosité du caractère de Fourier, qui alors se relie davantage au collège que nous sommes en train de visiter et sous les arcades duquel nous nous trouvons, c'est que il se prétendait autodidacte total, mais il a été au collège et il a appris le latin si bien qu'il lisait Kepler en latin. Seulement, il a eu horreur de tout ce qu'on lui enseignait au collège. Il n'a gardé vraiment que le latin, et tout le reste, il l'a absolument repoussé.
Pouvait être cet enseignement? Essentiellement le latin, les écritures saintes.
Oui, naturellement, les humanités. C'est d'où son horreur des théologiens, horreur également d'ailleurs des philosophes contemporains. Et donc, il a jugé qu'il devait repartir à zéro, faire table rase en somme lui aussi, et se donner un enseignement à lui-même.
Qu'il se déclarait autodidacte, c'est-à-dire qu'il rejetait l'enseignement ancien qu'il avait reçu.
Qu'il avait reçu ici même, sous ces arcades où nous nous promenons, et qu'il avait reçu de la manière la plus traditionnellement coercitive. Et ça explique aussi le système d'enseignement de Fourier, car les châtiments corporels étaient chose absolument courante et jamais mise en question dans les collèges jésuites. Et il nous parle de coups de férule, doigts relevés, qui lui faisaient tomber les ongles de douleur et qui le faisaient hurler de douleur. Et il parle aussi de la coercition envers la nourriture. C'est peut-être pour ça qu'il est devenu gastronome, gastrosophe, comme il dit, savant en gastronomie, parce que on voulait l'obliger à manger les choux, les raves, le vermicelle, toutes denrées dont il avait une horreur total. Et il raconte qu'un jour, chez le pédant, c'était le nom que l'on donnait, sans ironie aucune, au préfet des études, à ce que nous appellerions le censeur. Un jour, il dînait chez le pédant, le pédant ne l'aimait pas, disait Fourier, on lui avait mis une énorme rave sur l'assiette. Fourier a fourré la rave sous son habit et il l'a jetée par la fenêtre. Hélas, comme il était très maladroit, ça a atteint quelqu'un. Et le quelqu'un s'est mis à pousser les hauts cris, et le pédant a obligé Fourier à aller ramasser la rave toute pleine de sable et de poussière et à la manger. Alors, un choc pareil, plus la férule, sur un enfant hypersensible, ne pouvait que faire réfléchir. Et quand on a affaire à un visionnaire qui voulait réformer la société, il n'est pas étonnant que nous soyons en face d'un système aussi élaboré et aussi soigneusement et méticuleusement pensé que le système d'éducation chez Fourier, où il n'y a jamais aucun châtiment corporel. Et alors je trouve assez injuste qu'il n'y ait pas dans le vieux Besançon une rue Charles Fourier. Il y en a une dans les quartiers neufs et il y a même une école maternelle.
C'est peut-être un signe d'ailleurs.
Ah oui, il est pour... il est l'homme des temps futurs.
Ici, nous avons un document qui nous rappelle l'inventeur de système. C'est le plan du traité de l'attraction passionnelle.
Oui, alors ça, c'est très intéressant parce que tout est calculé avec Samani mathématique. Nous avons Samani mathématique et harmonisante. Il ne faut jamais oublier que pour lui, mathématiques et musique étaient unis et indissolubles. Alors nous avons l'octave majeure, nous avons l'octave mineure, nous avons le bas et le haut clavier pour les deux octaves, et nous avons les satellites, nous avons le clavier sidéral hypo-majeur, le titre d'amitié, la touche 25e, c'est Vénus, ambigu et hypo-majeur, ambigu. Donc androgyne, je pense. Les satellites qu'il énumère, puis il y a le livre antérieur ou hypo-majeur, théorie élémentaire, analyse et basse synthèse avec les préliminaires, les causes du retard de la découverte, les tableaux du mouvement, etc. Et puis nous avons le clavier sidéral hyper-majeur avec le titre d'honneur, et nous arrivons au livre citérieur ou hyper majeur, harmonie supérieure, haute synthèse, avec naturellement toute la division aboutissant à 810 tempéraments. Ça, vous savez qui varie.
L'honneur, le rut, la céladonie. Et ce qui est intéressant ici, c'est le classement également des femmes qu'il fait, titre d'amour satellite,
oui.
Avec combien 8 catégories,
oui.
La fakiresse, la bacchante, la bayadère, touche 27e Sappho, ambigu, hyper mineur, non découverte, là il y a une catégorie qui est inexplorée.
Oui, c'est
puis
de
la galante, la coquette, la romanesque, la prude, la fidèle.
Tableau analytique du coquuage. Extrait. Cocu en herbe ou anticipé est celui dont la femme a eu des intrigues amoureuses avant le sacrement et n'apporte pas à l'époux sa virginité. Et ne l'être qu'en herbe est pour lui peu de chose, dit Molière. Cocu présomptif est celui qui, longtemps avant le mariage, redoute le sort commun, se met l'esprit à la torture pour y échapper et souffre le mal avant de l'éprouver réellement. Chacun entrevoit que ses défiances ne serviront qu'à l'égarer dans le choix d'une épouse et accélérer par excès de précaution l'événement qu'il redoute. Cocu régénérateur ou conservateur est celui qui prend en main les intérêts de la communauté, surveille les ménages des confrères et les avertit des dangers que leur honneur peut courir. Entre-temps, il ne voit pas ce qui se passe dans son ménage et ferait mieux de faire sentinelle pour son propre compte et prendre garde à ce qui pousse sur son front. Cocu de l'étrier ou prête-nom est un homme de paille à qui l'on donne de l'avancement sous la condition d'épouser la maîtresse d'un homme en place et adopter l'enfant. Un tel cocu épouse souvent la vache et le veau. Cocu à toute sauce est celui qui cumule en foule toutes les dignités de l'ordre. Il a commencé par être en herbe, après quoi il figure nécessairement dans les sympathies, les orthodoxes, les ensorcelés, puis les autres espèces risibles par la duperie, conservant toujours la sérénité inaltérable à travers toutes les vicissitudes. Et pour compléter l'œuvre, il trouvera, s'il meurt à temps, une cour de justice qui lui adjugera un posthume un an après sa mort, afin qu'il ne manque pas le dernier grade de l'ordre, qui est celui de cocu des deux mondes.
Tout à fait surprenant chez Fourier, c'est cette nécessité de tout classer de façon à faire tout rentrer dans un système unificateur.
C'est la manie mathématicienne et harmonienne. Alors, l'humanité, par exemple, a connu 5 grandes périodes. L'Éden, la sauvagerie, le patriarcat, la barbarie et la civilisation où nous sommes encore. Mais dont il nous faut sortir, parce que le mot civilisation est une injure, rien ne va en civilisation, pour nous acheminer vers l'harmonie. Alors, chacune des périodes a subi successivement des vibrations alternées, ascendantes, harmonieuses, et descendantes, chaotiques. Alors, actuellement, nous sommes en civilisation dans une vibration descendante, chaotique. Nous ne pouvons pas dire le contraire actuellement, en 1980 d'ailleurs. Et ensuite viendra la période finale, l'harmonie. D'ailleurs, il a hésité. Et alors qu'au début, il croyait que l'harmonie, on ferait un saut dans l'harmonie, il s'est rendu compte qu'il faudrait une évolution, le garantisme et le socientisme avant de venir en harmonie. L'harmonie mettra fin aux misères et répressions de la civilisation, bien entendu. Et il dit, la civilisation dit qu'elle nous a apporté la liberté, mais quelle liberté? Quelle est cette liberté du siècle des Lumières et de la Révolution? C'est la liberté de mourir de faim. Je vous ferai remarquer que c'est la base même de toute la construction de Marx. Mais venons-en à l'attraction passionnée. Vous savez que l'attraction passionnée repose sur le principe de l'attraction physique de Newton, l'attraction matérielle, et elle est appliquée, cette attraction, au système moral et social. Et ça, Saint-Simon en avait déjà eu le pressentiment.
Cette découverte, il l'a faite à la fin du XVIIIe siècle, en 1799 probablement.
Oui, avec
Brillat Savarin. C'est le grand Eureka de Fourier.
C'est le grand Eureka de Fourier qui dit... Il y a eu 4 pommes qui ont changé l'histoire, la pomme d'Adam, la pomme de Paris, la pomme de Newton et ma pomme.
La référence à Newton, c'est une sorte de caution scientifique qu'il prend. Il est le premier à vouloir appliquer des normes scientifiques, voire mathématiques, à la psychologie, aux passions.
Oui, mais c'était trop nouveau. Vous savez, quand Freud a expliqué que toutes les ambitions, par exemple, et tous les désirs de possession d'objets matériels que nous avions venaient de refoulements sexuels, combien de gens l'ont pris au sérieux? Pas grand monde. Et Fourier, c'était une bien autre époque.
Une pomme devint pour moi, comme pour Newton, une boussole de calcul. Cette pomme... digne de célébrité, fut payé 14 sous par un voyageur qui dînait avec moi chez le restaurateur Février à Paris. Je sortais alors d'un pays où des pommes égales et encore supérieures en qualité et en grosseur se vendaient à 2 milliards, c'est-à-dire plus de 100 pour 14 sous. Je fus si frappé de cette différence de prix entre pays de même température que je commençais à soupçonner un désordre fondamental dans le mécanisme industriel. Et de là naquirent les recherches qui, au bout de 4 ans, me firent découvrir la théorie des séries des groupes industriels et par suite les lois du mouvement universel manquées par Newton. Charles Fourier.
Nous avons trouvé dans l'une des vieilles rues de Besançon, qui est maintenant d'ailleurs une rue piétonnière, les maisons sont des maisons basses, anciennes, un vieux restaurant qui nous évoque un petit peu à Besançon ce qu'était le goût de Fourier pour la table.
La table et la convivialité.
La convivialité, oui. Goût qui s'est développé surtout pendant la période de Lyon.
Oui. Mais déjà à Besançon, il aimait à aller avec des amis, justement, dans des restaurants semblables à celui-là, je pense. Je regarde la vieille horloge qui est là dans le coin, elle est tout à fait d'époque, il a pu en voir de semblables. Et des nappes à carreaux, mon Dieu, il y en avait déjà, je pense. Et à Lyon, où il a vécu longtemps et où il a eu ses premiers disciples, tout se passait dans les cafés et les restaurants, et notamment un café qui s'appelait Le Vieux Coin, où il a fait la connaissance de gens qui l'ont beaucoup encouragé, tout en ne le prenant pas totalement au sérieux, mais d'autres, oui, le prenaient au sérieux. Par exemple, un petit industriel, alors d'ailleurs chef de bureau à la préfecture, et qui depuis est devenu, notoire par la suite, Jean-Baptiste Dumas, a beaucoup encouragé Fourier, ainsi que des avocats et d'autres gens qui vivaient de l'horrible commerce, mais qui ne le prenaient pas au sérieux. Et c'est à Lyon aussi qu'il a tenté pour la première fois d'écrire dans un journal qui s'appelait Le Drapeau Blanc. C'était en 1818, c'était sa première tentative. Et ensuite, alors, il y a eu le Phalanstère en 1832-34. Mais
le journal de Lyon et le bulletin de Lyon également,
le
dans
de
le,
Lyon.
En 1802
oui.
et 1803.
Oui, alors ça, c'était une époque où le journalisme le tentait beaucoup comme moyen de propagande de ses idées qui étaient déjà assez au point.
Mais c'est là qu'il a exposé d'ailleurs pour la première fois son système de l'harmonie universelle.
C'est ça.
Au fond, donc, en exposant son système, il s'est un peu dévoilé. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il fait peur. Et
oui.
Il fait tellement peur qu'il va y avoir des pressions du pouvoir politique.
Des interrogations, oui, des pressions sur
les
journaux.
Sur le propriétaire du bulletin de Lyon.
C'est ça.
Et finalement, il va perdre ses collaborations.
Et oui, et pourtant Ballanche était un franc-maçon et était très favorablement disposé envers Fourier. Mais là, il a eu peur. Et c'est à ce moment-là, enfin au moment de la lettre au grand juge, que Fourier a commencé à devenir un personnage qui avait un dossier. Enfin, en tout cas, pour en revenir à l'atmosphère sympathique de restaurant et de convivialité, le Fourier de Lyon, du Bon Coin, s'amusait bien.
Fourier, finalement, ne s'est jamais marié, malgré le désir de son père, exprimé dans son testament.
Bon, écoutez, Fourier était un nomade. Et alors, s'il était nomade en quelque chose, c'est bien sur le plan du désir et des passions. D'ailleurs, toute sa théorie
l'exprime. C'est pour ça qu'il en a fait un système.
Mais il en a fait un système pour garantir les gens contre la routine, la monotonie, ce sont ses propres termes, qu'engendre une union monogamique. Et c'est pour ça qu'il voyait 13 passions.
Alors,
et dont la 13e, c'est ça qui est intéressant, est l'unithéisme, c'est-à-dire ce qui synthétise toutes les autres passions. Alors ça, je trouve que c'est très intéressant, parce que ce maniaque de la musique et des mathématiques veut tout de même qu'il y ait une synthèse globale, un ordre. Et c'est peut-être ce qui explique sa fascination de Napoléon. C'est qu'il veut tout de même que tout ce désordre énorme, tout ce débordement, tout ce respect pour l'infinie variété des désirs et des goûts finisse par donner une harmonie musicale, c'est-à-dire une unité. Et ça, je trouve ça très beau.
La sensualité fourriériste est surtout orale. Certes, les grandes sources du plaisir sont à égalité, l'amour et la nourriture, mis sans cesse en parallèle. Mais si Fourier revendique en faveur de la liberté érotique, il ne la décrit pas sensuellement, tandis que la nourriture est fantasmée amoureusement dans le détail. Compote, mirliton, melon, poire, limonade. Et la même parole de Fourier est sensuelle. Elle progresse dans l'effusion, l'enthousiasme, le comblement verbal, la gourmandise du mot. Le néologisme est un acte érotique, ce pourquoi il soulève immanquablement la censure des cuistres. Ce plaisir fourriériste est commode, il se découpe, isolé sans peine du fatras hétéroclite des causes, effets, valeurs, protocoles, habitudes, alibi. Il se présente partout dans sa pureté souveraine. La manie, celle du pile-talon, du manche vilaini, du vieux poupon sentimental, n'est jamais saisie que par le plaisir qu'elle procure au partenaire, et ce plaisir ne s'encombre jamais d'autres images. Ridicule, inconvénient, difficulté. Bref, aucune métonymie ne l'attache. Le plaisir est ce qu'il est, rien d'autre. Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola.
Alors nous avons de l'autre côté de cette salle, ici les documents qui concernent le phalanstère, cette sorte de cité idéale. D'abord, il y a une gravure très belle qui était probablement le projet de Condé-sur-Vègre, oui, à la lisière de la forêt de Rambouillet.
En tout cas, il y avait des épures, des gravures, des dessins, enfin, Condé-sur-Vègre, sauf que ce n'était pas construit, était très avancé comme projet. Mais alors, ce que j'admire, c'est qu'à partir de cette gravure, la conservatrice et son équipe aient pu reconstituer une admirable maquette assez grande dans les bleus, gris, grège et vert, et qui montre la disposition exacte des bâtiments selon Fourier.
Alors décrivez-nous cette architecture, cet ensemble.
L'ensemble, si vous voulez, se constitue en deux grandes parties séparées par une grande route, ce qui était une voie de passage importante. Il y a d'une part les bâtiments d'habitation qui sont organisés autour d'une cour centrale, et la façade se déroule dans un style d'ailleurs très versaillais. Finalement, l'architectonique du bâtiment est très versaillais, très grand siècle. Elle se déroule, si vous voulez, et elle correspond au niveau du plan du bâtiment à ce que Fourier est considérant appeler le fleuve. Enfin, c'est-à-dire une sorte d'organe de vie du phalanstère, une sorte de rue couverte qui devenait une artère de vie du bâtiment.
Ça, c'est la partie habitation.
La partie habitation qui s'organise avec par derrière une autre série de cours, une autre série de bâtiments.
Il y a une sorte de tour centrale au milieu.
Oui, cette tour centrale qui servait en fait de sémaphore et de point de rassemblement. Et qui, par exemple, dans des projets de Fourieriste comme celui de Godin, devient une tour de surveillance. Et de l'autre côté donc, de l'artère centrale se trouvent les bâtiments de fonctionnement agricole et industriel. Donc, si vous voulez, c'est un lieu de vie et de travail, mais les deux bâtiments, les deux fonctions sont séparées quand même dans l'espace.
Et alors, la partie lieu d'activité de travail, comment est-elle organisée ?
Elle est organisée autour de, si vous voulez, les bâtiments agricoles sont ici.
Au centre,
avec le pigeonnier ici. Les bâtiments manufacturiers se trouvant de chaque côté.
Les habitations dépendent tout de même du capital apporté, n'est-ce pas ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on arrive avec de l'argent, un gros capital, on peut avoir un appartement dans le centre, sur la cour centrale. Lorsqu'on arrive avec peu d'argent ou pas d'argent du tout, on est logé dans le bout des ailes.
Quels sont les commentaires, les réactions des visiteurs de ce musée d'histoire devant cette maquette ?
Tout d'abord, pour ceux qui sont, si vous voulez, les plus avertis sur Fourier, c'est de concrétiser deux choses pour nous franc-comtois. D'une part, l'apport de la nature, enfin, ce que je vous signale en arrivant, et d'autre part, des éventuelles affinités avec Arquesnan. Pour nous, si vous voulez, dans la région, un des plus beaux bâtiments est Arquesnan, les salines royales d'Arquesnan construites par Ledoux, fin 18e. Donc, on peut s'est toujours poser la question de savoir si Fourier avait visité Arquesnan et connaissait Arquesnan.
C'est probable, et puis il s'en est beaucoup inspiré, oui. Semble-t-il.
Le deuxième gros apport de la maquette est que, surtout les adolescents, arrivent à comprendre, là, devant cette maquette, que le projet pourrait exister, que ce n'est pas juste une idée, une poésie, un rêve. Enfin, c'était un peu, si vous voulez, vis-à-vis de Fourier lui-même, même s'il est très loin pour nous, c'était un peu gênant. Fourier a toujours attendu toute sa vie l'homme qui allait financer la réalisation du phalanstère sans aucune concession, sans aucune coupure. Le projet devait être intégralement réalisé dans toute sa splendeur, puisque c'est un bâtiment splendide. Et nous, au milieu du XXe siècle, avec des petits bouts de bois, nous osons, si vous voulez, construire le phalanstère et le proposer au public en maquette.
Et parmi ces adolescents qui se trouvent tout d'un coup confrontés aux rêves devenus bois et devenus concrets, est-ce qu'il y a des réactions de rejet ?
Très violentes et même très générales, parce qu'ils n'arrivent pas, je crois, à imaginer que la société puisse exister, si vous voulez, sans ces affrontements perpétuels entre hommes. Et ils n'arrivent pas à concevoir que Fourier voulait les annuler et que le projet de Fourier n'est valable qu'à partir de cette annulation. Pour eux, ils prennent les hommes tels qu'ils sont à l'heure actuelle. Ils vivent à Planoise, enfin, Planoise étant le gros quartier neuf de Besançon. Et pour eux, si vous voulez, ce genre de projet, c'est un peu quelque chose de fermé, de clos. Et pour beaucoup, ils emploient même le terme de prison.
Nous avons quitté Besançon pour faire une vingtaine de kilomètres et nous n'avons pas résisté au plaisir de voir les salines d'Arquesenant de Nicolas Ledoux, qui datent de quelle époque exactement, de quelle année?
Du XVIIIe siècle, 1776 exactement.
C'est-à-dire qu'ils sont pratiquement contemporaines de Fourier.
Voilà, pratiquement, oui. Enfin, de toute façon, il les a vues et il est probable qu'il en a tiré, disons, au moins des idées et quelque chose à la base de son travail, sûrement.
Alors, il faut décrire un petit peu l'architecture de cette place qui se trouve un petit peu en amphithéâtre, sous forme d'amphithéâtre. Hein.
Nous avons une espèce de temple à colonnes. Et nous avons des deux côtés un bâtiment beaucoup plus long, avec trois arcs.
C'est ça.
Et qui est destiné à quoi?
Alors, qui étaient les deux bâtiments de fabrication des sels, donc l'usine elle-même, si on veut.
L'usine de part et d'autre du bâtiment central, et le bâtiment central, c'était...
Le bâtiment du directeur, qui comprenait à la fois ses appartements, et puis tous les bureaux, l'administration de la saline.
Et alors, ici, sur le pourtour, sur la circonférence...
Sur le pourtour, tous les bâtiments sont les bâtiments des différents ouvriers. Alors, il y en a quatre en tout, hein, oui. si on fait le parallèle, qui comprenaient les bâtiments des tonneliers, les bâtiments des forgerons, des charpentiers et des menuisiers.
Et quand vous dites bâtiments, ce n'était pas les lieux de travail, c'était les lieux où ils habitaient?
C'était les lieux où ils habitaient et le corps central du bâtiment était consacré à l'atelier, c'est-à-dire que chacun travaillait là où il logeait et tout restait dans le même emplacement. Enfin, il est fortement probable que les femmes et les enfants de ces ouvriers travaillaient également à la fabrication du sel. On ne connaît pas malheureusement exactement la répartition du travail. On estime à peu près 300 personnes le nombre de personnes qui travaillaient ici, ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils logeaient sur place.
Nous allons aller vers le bâtiment central, si vous voulez bien.
Moi, je trouve...
Dominique de Santi, nous avons vu une maquette au musée d'histoire de Besançon.
La maquette du Phalanstère de Fourier.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'il s'est un peu inspiré tout de même de cette architecture de Nicolas Ledoux?
Il s'est beaucoup inspiré, mais alors là, je dois dire que Nicolas Ledoux est arrivé à édifier un oratorio de pierre grise avec des toits d'un rouge sombre et qui est une sorte de poème composé. Enfin, vraiment, l'architecture et l'harmonie se mêlent parfaitement et quand on connaît l'amour conjoint de Fourier pour la mathématique et la musique, je crois que quand il voyait l'œuvre de Nicolas Ledoux, il avait l'impression d'une perfection.
Alors voici donc le bâtiment central.
Devant nous un escalier que nous franchissons. Il est en pierre grise, il y a une rampe de fer forgé et le jour vient par des ouvertures très haut, un jour tout à fait tamisé. Et puis nous allons vers des colonnes plates, assez étranges, comme toujours chez Nicolas Ledoux.
Il y a eu une restauration et un aménagement de ces lieux qui est assez récente. Et en fait parce que les salines d'Arquesenant sont devenues un lieu de colloque.
Voilà, les salines d'Arquesenant sont maintenant abrite maintenant le Centre international de réflexion sur le futur. Donc, il fallait bien sûr adapter ces bâtiments aux impératifs actuels et bien sûr l'aménagement est moderne. Alors, ça peut
moderne,
choquer.
Moderne, mais respectant tout à fait.
Voilà, mais respectant absolument l'architecture de Ledoux.
Oui,
absolument.
Et notamment, ce que j'aime beaucoup, c'est que on a gardé la pierre comme matériau de base.
C'est ça.
C'est-à-dire que les murs intérieurs sont en pierre eux aussi. Et ça, c'est très très beau. D'ailleurs, il y a eu un colloque Fourier ici pour le centenaire de sa naissance en 1972.
Dans ce bâtiment de Nicolas Ledoux, qui est un peu une préfiguration du phalanstère de Fourier, est-ce que vous pouvez nous donner une idée alors assez globale de ce qu'était la société selon Fourier?
Alors, le phalanstère en harmonie aurait pour base, il y aurait une infinité de phalanstères disséminés à travers le monde par contagion. Parce qu'une fois que le premier phalanstère serait fondé, chacun comprendrait par son exemple combien c'était supérieur à l'état de civilisation et peu à peu, les phalanstères s'étendraient à travers le monde.
Alors, donc société d'harmonie par contamination.
Par contamination, sans violence. Mm-hmm. Alors, la cellule élémentaire comprendrait idéalement 1620 hommes et femmes correspondant aux 810 caractères différents. Il y a toujours la manie chiffrante de notre cher Fourier. Il y aurait un manoir de la phalange. Ça, c'est la maison commune où on se réunirait et tout autour des jardins, des cours intérieures, le fleuve. Le fleuve, c'est le lieu qui traverse toute la phalange. Des galeries vitrées, parce qu'il ne faut pas avoir froid, pas comme nous aujourd'hui à Arcesnan. Et il y aurait tout autour, toujours donnant sur un jardin et de préférence en fer à cheval, des cellules individuelles, mais très petites, parce que l'intéressant, c'est de se réunir, de se réjouir ensemble.
Donc ce sont les lieux collectifs.
Oui, l'important, c'est le lieu collectif. Mais chacun a droit à son appartement.
Au repli individuel.
Au repli individuel, parfaitement. Alors, maintenant, nous pouvons nous demander comment se passe, en fait, la vie dans le phalanstère. Les travaux sont principalement de jardinage, d'agriculture et d'élevage. La journée de travail terminée, on se revêt de ces vêtements dont on rêvait et on va successivement célébrer le culte du nouveau christianisme, bien sûr, à l'église, on va au théâtre, on va au carrousel, et chacun participe au spectacle, c'est-à-dire que le spectacle, c'est aussi le public, la manière de s'habiller du public. Et c'est là que se déploie l'infinité des désirs possible. C'est là que les intrigues amoureuses se forment, c'est là que les désirs prennent conscience d'eux-mêmes, soit la polygamie se déploie, soit on revient à sa pivotale, car il y a des êtres qui ne sont heureux que quand ils ont leur pivotale en face d'eux, mais cela n'empêche jamais, naturellement, d'autres plaisirs. Il y a aussi un lieu dans la maison commune, si c'était ici le phalanstère, eh bien ça serait dans le bâtiment central de Nicolas Ledoux, le bâtiment à Colonne, où nous sommes, que se tient la bourse des inclinations. Alors la bourse des inclinations, c'est le choix. Le choix de la personne avec laquelle, pour très peu de temps ou pour longtemps, on partira pour trouver le plaisir. Il y a des gammes d'orgies naturellement très prévues, chiffrées, de manière que l'harmonie s'obtienne et les mœurs sont très libertines. Alors voilà, c'est donc dans cet enchaînement continu de travaux et de plaisirs que doit se passer la journée du phalanstère.
Un homme, une ville, Charles Fourier à Besançon avec Dominique de Santi par Jean Montalbetti. Cette première émission avait pour thème un provincial d'Ancien Régime en révolte contre son milieu. Les lectures de Charles Fourier, extraites de La Phalange de 1848, du Nouveau Monde Amoureux et de Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola, ont été faites par Claude Rich. Prise de son à Besançon, Lucien Brocard de FR3. Mixage, Claude Massé et Bernard Charon. Réalisation, André Mathieu et Daniel Fontanarosa.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 11 avril 1980. Vous pouvez la télécharger pendant un an sur franceculture.fr et la réécouter à volonté.
Cidade, brilho da lua, oh, noite é bem tarde. Penso em você, fico com saudade. Manhã chegando, luzes morrendo. Nesse espelho que é nossa cidade, quem é você, oh, qual o seu nome? Conta pra mim, diz como eu te encontro, mas deixa o destino, deixa o acaso. Quem sabe eu te encontro de noite no baixo, brilho da lua, oh, noite é bem tarde. Penso em você, fico com saudade. Cidade, brilho da lua, noite é bem tarde. Penso em você, fico com saudade. Manhã chegando, luzes morrendo. Nesse espelho que é nossa cidade, quem é você, oh, qual o seu nome? Conta pra mim, diz como eu te encontro, mas deixa o destino, deixa o seu castro. Quem sabe eu te encontro de noite no baixo, brilho da lua, oh, 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 noite é bem tarde. Penso em você, fico com saudade.